France Musique.
Le casque et l'enclume. Bonjour à tous et bienvenue dans le casque et l'enclume au programme d'aujourd'hui, un combat de femmes, non pas un combat de catch nu, mais par voix interposées.
Dommage.
Et c'est Christian Merlin qui dit ça, oui évidemment vous connaissant les grillards comme vous êtes. Patricia Petitbon, Elina Garancha, Cecilia Bartoli-Soro au cœur de nos débats pour commencer cette émission. En deuxième partie, ce sera du DVD, deux DVD qui nous arrivent de Bruxelles et de La Monnaie, décidément l'un des opéras les plus créatifs d'aujourd'hui, Une Loulou et un Trou Vert. Voilà, beau, beau programme, je vous le dirai. Donc bien avec nous et avec mes invités du jour. Vous l'avez déjà entendu, Christian Merlin du Figaro, Richard Martet d'Opéra Magazine et Pierre Flinois de Classica et de l'avant-scène Opéra. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour écouter des belles choses et de la musique que parfois, rien qu'à l'orchestre, on sait qui c'est qui va chanter dessus.
Thank you.
Nous écoutions ici la voix, bien sûr, de Cecilia Bartoli avec le formidable Diego Fasolis à la tête de ses Barocchisti sur le dernier disque de la Cécile. Il vient de paraître chez Decca. Non, il paraîtra, pardon, lundi 13 octobre précisément, sous le titre Saint-Pétersbourg. Et là, on entendait la pièce d'un certain Hermann Raupar. Il a l'air de spécialiste mondial de Raupar.
Oui, c'est ça.
Christian Merlin.
Depuis ce matin, hein,
depuis
je vous signale.
Ah, d'accord.
Oui, oui. C'était le compositeur en second à Saint-Pétersbourg. Oui. Le maestro di cappella officiel était Vincenzo Manfredini. Et Raupar était un Allemand de Stralsund, près de la Baltique, donc tout
d'accord.
Là-haut quand même,
ouais.
Qui s'était installé comme beaucoup de musiciens à Saint-Pétersbourg, ville favorable aux arts, et il était le compositeur en second. Voilà ce que
d'accord.
Je peux vous dire
compositeur
sur lui.
Compositeur en second de Manfredini, qui était pour nous déjà pas un compositeur en troisième.
C'est donc, le moins qu'on puisse
c'est dire la
oui.
Place de la chose, enfin, celle qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Peut-être que ça changera avec Cecilia Bartoli. Richard Marté, vous avez adoré Saint-Pétersbourg Saint.
C'est mon coup de cœur du jour, ça. Ouais. C'est le disque, c'est Saint-Pétersbourg. Donc en fait, il est entièrement consacré à des musiciens qui ont composé de l'opéra au XVIIIe siècle à Saint-Pétersbourg. C'est très intéressant puisque vous savez que l'historiographie courante, c'est le premier opéra, c'est Glinka avec Une vie pour le tsar et Rouslan et Ludmila. En fait, on s'aperçoit dans ce disque, d'ailleurs je pense que les auditeurs l'entendaient, elle chantait en russe.
Oui, absolument.
Là. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, il y avait déjà des opéras russes, pas faits forcément par des compositeurs russes, puisque les compositeurs italiens et allemands invités composaient sur des textes russes ou composaient sur des textes italiens. Donc ça, ce qui est passionnant dans ce disque, c'est que les airs commencent vers 1715, vont jusqu'au règne de Catherine II, c'est-à-dire aux années 1780-90, et c'est absolument superbe. Donc moi, avant de parler d'elle, j'aimerais bien parler de musique. Mmh. Alors, ce que vous venez de faire entendre, c'est loin d'être mon passage préféré, je le trouve assez conventionnel. Musicalement, elle est impressionnante,
quand
mais
même.
Je trouve la musique assez conventionnelle. En revanche, il y a un parcours musical d'une beauté là-dedans, à couper le souffle, bourré d'émotions. Ces gens, on les connaît pas. Hein. Manfred, à part Cimarosa, oui. Qu'on connaît un peu, Manfredini, Raupar, Araya, par exemple, Francesco Domenico Araya, qui a fait un opéra qui s'appelle Seleuco. L'air de Seleuco qui dure quand même 10 minutes 15, je ne me suis pas ennuyé un instant. Mmh. J'ai été bouleversé par la beauté de cette musique. Même chose pour Carlo Magno de Manfredini. Là encore, 9 minutes 14 la plage. Pas un instant, je ne me suis... C'est tellement beau, il y a un dialogue avec, avec l'instrument... Solo, en l'occurrence la flûte, mais dans d'autres c'est la clarinette. Enfin, c'est splendide, splendide.
C'est splendide, mais est-ce que le répertoire vaut vraiment tant que ça, Pierre Flinois ? Ou est-ce qu'il vaut avant tout par le talent des interprètes ? Et on sait qu'il est grand ce talent pour ceux que je viens de nommer.
De toute façon, pour cette musique de cette époque, le talent des interprètes était fondamental. Il ne faut jamais oublier ça. Alors après, moi je ne suis pas aussi enthousiaste que Richard. La première écoute que j'ai faite, j'ai été ébloui. Ébloui parce qu'il y a un orchestre formidable, parce que la Bartoli, c'est la Bartoli de toute façon. Et parce que j'ai découvert des qualités musicales extrêmement intéressantes et qui m'ont... laissé beaucoup plus froid à la deuxième écoute. J'étais peut-être moins concentré, j'étais peut-être moins passionné par la découverte et je n'ai pas l'impression que c'est un disque que je vais réécouter souvent, contrairement à Richard à première vue.
Ah, moi, j'ai été bouleversé par plusieurs morceaux là-dedans, vraiment.
Alors, je trouve que, encore une fois, l'interprétation de Bartoli est sensationnelle. Il y a la double Bartoli habituelle, il y a la Bartoli avec le cœur sur la main, l'émotion musicale que j'adore, et puis il y a la Bartoli tromblon, comme je l'appelle, qui vous fait ce qu'on vient d'entendre, où elle est imbattable, de toute façon personne ne fait ça aussi bien, et dont je confesse que, à force d'entendre ça disque après disque, ça ne m'intéresse plus vraiment. Elle sait faire, elle sait lever l'enthousiasme d'une salle parce que c'est ébouriffant, mais fondamentalement, alors là c'est l'amateur de musique à prise de tête 19e, un certain Wagner que vous mettez de temps en temps en boîte sur ce sujet-là, je dirais, où je trouve cette musique parfaitement faite, très très admirablement faite, mais elle ne me touche pas parce qu'elle ne contient pas de message, si je puis dire, de véritable contenu qui puisse me toucher le cœur. Bon. Alors, bien sûr, les petits rapports à la flûte, aux instruments, et tout ça est souligné admirablement par Fasolis et par ses Barocchisti. Mais je ne suis pas touché, je ne suis plus touché. La première fois, j'ai été touché.
Ah, Christian Merlin.
Le problème du dernier à parler, c'est que du coup, il est dans une position d'arbitre, position très inconfortable. Je penche plutôt, désolé Richard, mais du côté de Pierre Flinois. En même temps, je me remets en cause en disant ça. Je me pose des questions sur moi-même. Oui, c'est de l'introspection.
Vous savez, c'est juste une émission de radio, c'est pas votre psychanalyste du jour.
Ah zut, alors on ne m'avait pas expliqué ça.
Je vais confondre les deux.
Non, en fait, je me demande tout simplement finalement, si je ne l'ai pas trop entendu, la Bartoli, et si je ne suis pas blasé, et s'il n'y a pas un effet de répétition. Parce que souvent, quand on parle de ces artistes qu'on retrouve pour des rendez-vous réguliers, il nous arrive de dire au micro, c'est vraiment difficile de se renouveler pour les artistes. Mais c'est difficile aussi pour le critique de renouveler l'écoute et de renouveler l'intérêt et la capacité à s'émerveiller. Et dans le jargon journalistique, on parle de marronnier pour parler d'un sujet qui revient régulièrement et qu'on traite chaque année à la même date. Il y a la rentrée scolaire, on montre des images au journal télévisé de petits-enfants qui pleurent.
On a notre Bartoli à Noël.
Exactement. Il y a le Bartoli et je crois que j'ai un peu de lassitude. C'est terrible à dire parce qu'il y a une sorte de systématisme. Et en même temps, j'ai peine à dire ça parce que je suis obligé d'admirer la rigueur conceptuelle avec laquelle c'est fait, la recherche qui précède tout ça, la volonté de trouver des répertoires rares qui, a priori, ce que nous, on demande, parce que souvent, on reproche aux gens de faire toujours la même chose. Donc, objectivement, je devrais sauter de joie, mais je retrouve toujours les mêmes effets jusque dans l'air que vous venez de passer, là, qui est cet effet, alors, Pierre dit Tromblon, moi, je pensais au canon de Navarone, c'est vocalise vraiment avec cette voix volontairement et très forte, bien sûr, mais un peu dure, un peu indurée, avec ce côté presque
ça,
agressif.
Justement.
Mais oui, c'est
bien
fait
sûr.
Pour. Mais je crois que j'en ai un peu marre. Désolé de le dire comme ça.
On a de la maladie de riche, c'est là, affreux. J'ai l'impression.
Oui, peut-être qu'on est blasé.
Après, on va écouter un autre extrait, plus dans la douceur. Il est choisi par Richard. C'est donc cette œuvre de Vincenzo Manfredini.
Non sai, mi risvegliano.
Un extrait du Carlo Magno de Vincenzo Manfredini. Vous inquiétez pas si vous connaissez pas, nous non plus, personne ici. Hein. Pourtant, ils savent tout de l'opéra normalement, mais pas là. Cecilia Bartoli, Ibaro Kisti et Diego Fasolis. Alors, c'est vous qui avez choisi cet extrait-là, Richard, pour le côté dialogue entre la voix et l'instrument. C'est vrai que c'est super.
Bah. J'ai encore craqué. D'abord, c'est très bien fait. Le flûtiste est extraordinaire. Il s'appelle Jean-Marc Goujon. Il s'harmonise dans la couleur qu'il donne à son instrument avec la voix de Bartoli de manière impressionnante. Bon, moi, j'adore ça. Hein. Vous avez compris. C'est le type de musique que j'adore. J'adore les dialogues entre voix et instruments avant. Là, il y en a plein dans ce disque. Donc, j'ai pris mon pied, quoi, soyons clairs. Voilà.
C'est le sommet du disque, de toute façon.
C'est la quatrième fois que j'écoute cet extrait. Je craque encore. Quoi. Mais pas que celui-là, il y en a d'autres.
Je disais maladie de riche à propos de ce que nous racontaient tout à l'heure Pierre et Christian. Avec affection, ils le savent bien sûr, mais c'est vrai. Est-ce que la Bartoli, elle n'est pas tellement géniale, tellement sublime? Elle ne fait pas tout à tellement haut niveau qu'au bout d'un moment, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est vrai qu'on peut avoir une certaine satiété qui est très injuste parce que c'est tellement formidable, en effet.
Non, ça dépend de ce qu'elle chante. Le dernier disque qu'elle avait fait, qui était dédié à Agostino Stefani, là, pour le coup, la musique ne m'avait pas emballé. J'avais trouvé que malgré les talents de Madame Bartoli, ben, elle n'arrivait pas à passionner dans ce programme. Là, c'est le cas. Elle a mieux choisi, sans doute, les airs. Je ne sais pas ce que vaut le Carlo Magno de Vincenzo Manfredini sur la durée. Pendant 3 heures, peut-être qu'on s'emmerde, j'en sais rien. Ouais. Mais les airs qu'elle a choisis sont absolument sublimes.
Pierre Flinois.
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Richard. Ce qui me pose problème, c'est que finalement, ce disque magnifique, mais qui, comme je disais tout à l'heure, me laisse un peu froid à la réécoute, j'ai des moments d'illumination sur le détail, et cet air-là est effectivement pour moi le plus beau. Je serais curieux d'entendre l'intégrale, comme on vient de dire, de tel ou tel opéra. Donc, quelque part, c'est un disque de musicologie ouverte. Ça va peut-être ouvrir des portes pour redécouvrir. Et entre nous, il y a un instant, je disais que la redécouverte de Vinci, par exemple, et l'Art Acerce, qu'on peut écouter d'un bout à l'autre avec un plaisir infini, c'est un cas d'illustration heureux par rapport à des tas de cas de choix où on reste sur son attente parce que tout n'a pas été génial d'un bout à l'autre. Cela dit, et c'est ce que je disais aussi en aparté, je trouve que Bartoli, là, est absolument merveilleuse.
Vous dites en bonne forme vocale.
Oui, ça, c'est vrai. Magnifique, absolument.
Pourquoi? Parce qu'elle a été moins il y a quelques temps.
Oui, il y a eu des disques ou des récitals où la voix marquait certains signes d'usure ou de fatigue.
Puis la manière de vocaliser comme une mitraillette. Mais là, elle a bien atténué, elle a plus arrondi.
Tout à fait.
Elle est vraiment au sommet de son art. Quoi. Elle a quoi, 45, 46 ans dans ses oreilles. Elle est vraiment au zénith. Hein,
donc. Et là, on est dans une musique qui fait penser au jeune Mozart, bien évidemment. Évidemment, à la fois dans la forme, dans la matière, dans le ton de la chose. Et moi, les disques de Bartoli que je préfère, c'est ceux d'il y a 15-20 ans, quand elle chantait justement Mozart, etc., où elle était absolument délicieuse et merveilleuse. Alors, je sais que Richard fait la grimace parce qu'elle a montré qu'elle pouvait aller au-delà, mais sur le plan du plaisir que j'en retire, moi, et c'est une opinion tout à fait personnelle, je rejoins cet univers-là.
Cecilia Bartoli, Saint-Pétersbourg, le disque paraîtra lundi chez Decca avec une photo en couverture qui nous rappelle quelque chose. C'est quoi, Richard, ça, vous qui savez tout?
Moi, dès que je l'ai vu, ça fait un peu Audrey Hepburn dans Guerre et Paix. Mais parce que j'ai revu Guerre et Paix l'autre jour avec elle et Ferrer et Henri Fonda. Ça fait un peu ça, sauf que ce n'est pas tout à fait. Mais c'est la première image qui m'est venue avec les yeux, les cils.
Alors, quelques réserves sur ce disque, on l'aura compris. Mais enfin, on est tous d'accord pour dire quand même, c'est pas rien. Le point de vue va être un peu différent, j'ai l'impression. Christian, avec le dernier récital discographique d'Elina Garancha, Méditation et son nom, il nous arrive chez Deutsche chez Gramophone, alors c'est que des pièces relativement lentes, une sorte de réflexion sur la vie, le profane, le sacré.
Ah bon?
Ah, je sais pas, c'est ce qu'on nous dit dans le livret.
Je ne suis pas sûr
d'avoir entendu.
Moi, je n'ai pas entendu grand-chose. Alors là, pour le coup, vous avez raison. Mes réserves sur la Bartoli, c'était vraiment faire son intéressant et faire son blasé. Revenu de tout, et qui se plaint que la mariée soit trop belle, parce que c'est quand même un grand disque, même si moi, ça m'agace. Alors que ce récital d'Elina Garancha, quelle déception. Enfin, c'est... comment dire, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un récital vocal aussi mal conçu et surtout aussi kitsch et aussi désespérément, ne trouve même plus d'adjectif, sulpicien, voilà, mièvre, dans un état d'esprit même constamment new age, sans le moindre bon goût musical, en plus avec des arrangements improbables. Il y a ce fameux Agnus Dei dit de Bizet, mais où l'éditeur a réinjecté des thèmes de l'Arlésienne qui Autrefois, c'est vrai que ça faisait les beaux soirs de concerts promenades ou de concerts dominicaux, où on faisait le Panis Angelicum, on faisait Minuit Chrétien, etc. Là, fait comme ça, sans parler des tentatives d'incursion vers un répertoire plus contemporain, mais alors quel contemporain?
Oui.
Ce sont des
Gomez, par exemple. Hein,
alors, il y a Gomez. Le William Gomez, ça, là, fort, qui ça, est hein. Une sorte de guitariste, oui, je ne sais pas venu d'où. Et puis des baltes très planants, New Age, là, genre Peteris, Vasks et autres, ou Guy Spraulins, dont j'ignorais tout. C'est tout ce que je déteste.
D'accord. C'est, Richard voilà. Martin lui va aimer, évidemment.
Absolument insupportable.
D'accord.
J'ai eu beaucoup de mal à arriver au bout. Là, c'est la conscience professionnelle qui m'a motivé, déjà dès le début, les deux Gounod, le repentir, qui est une mélodie que moi j'aime bien, mais mal arrangée, puis tout ça déborde de sirop, et l'abomination absolue, c'est l'Ave Maria de Mascagne.
Ah oui.
Alors, figurez-vous que Karel-Marc Chichon, qui dirige
c'est
ce récital,
le
mari voilà. d'Elina Garancia et le papa de ses deux filles, s'est mis en tête de transformer l'intermezzo orchestral de Cavalleria Rusticana en Ave Maria, en le faisant chanter par sa femme. C'est une chose, mais monstrueuse. Une pâtisserie qu'on n'a même pas envie de manger, qui dégouline de tous les côtés. Elle chante ça avec un vague trémolo dans la voix. Enfin, mais à s'échapper en courant. Comment cette femme qui chante merveilleuse, la voix est plus belle
là,
que jamais.
Là,
pendant
là,
plus d'une heure, on entend une voix magnifique. Mais qu'est-ce qu'on a là, nous encombrer les oreilles avec des cochonneries pareilles, quoi. C'est...
Bon, avant que Pierre réagisse, parce que je voudrais que les auditeurs sachent de quoi il s'agit quand même, qu'ils soient un peu leur idée avant que vous confirmiez ou infirmiez. C'est Ave Maria, justement, de Cavalleria Rusticana, Celina Garancia.
Oh,
une certaine idée du bon goût musical. Pas celle de mes invités, j'ai l'impression. C'était Lina Garancha dans cet intermezzo symphonique de Cavaliera Rusticana de Mascagni, transformé donc en Ave Maria, dirigé par Karel Marchichon, qui est essentiellement responsable de tout ce qu'on entend, pas pour la partie non vocale. Pierre Flinois, est-ce que vous avez l'air rattrapé de ce que nous ont raconté nos camarades tout à l'heure?
Il faut vraiment
vous le sentez. Hein.
Non, je ne vais pas rattraper. Moi, ce que j'entends, c'est que j'ai un seul compositeur pour ce disque, quelque part, qui a tout arrangé, même sans modifier la musique. C'est M. Chichon, justement, qui rend tout absolument identitaire, sans savoir ce que c'est que le style de Allegri ou le style de Mascagni, parce que bon, l'extrait de Regina Celli de Cavalleria ressemble à s'y méprendre avec la musique d'Allegri, sans aucune différence. On ne sait pas ce que c'est que le style dans ce disque. Donc tout est façon
sirop. Quoi.
Voilà, façon sirop, avec plus ou moins de goût, avec quelqu'un qui, au niveau de la voix, c'est quand même à peu près ce qu'elle fait, je dirais, mais un support orchestral qui est d'une évanescence molle.
Ouais. Pas une indifférence totale. Sur ce tempo-là, en plus.
Oui, c'est ça. Rien ne ressort. Je critiquais tout à l'heure Madame Tromblon, comme je le disais, mais au moins elle s'est composée un programme, elle s'est associée des pièces virulentes et des pièces délicates, etc.
Et puis vous découvrir des choses,
et les atmosphères changent.
Ça depuis des années.
Tout à fait. Là, on est dans des découvertes pas intéressantes, c'est ce que soulignait, je sais plus qui de vous de toute façon.
Je crois qu'on était d'accord.
Mais on est tous d'accord. Et on a une espèce de tranche de baba mou, un peu imprégné d'un truc qui n'est pas au rhum vraiment, et où rien ne ressort, tout est égalitaire.
La métaphore pâtissière a de l'avenir, j'ai l'impression, dans le casque. En tout cas pour ce disco-là, hein, Richard.
Oui, ça continue. Mais en fait, ce que dit Pierre est très juste, mais ça ne tient pas qu'à Karel Marchichon, à sa manière de diriger et d'orchestrer. Ça tient aussi à elle. C'est-à-dire, vous l'avez entendu dans la fin de cet Ave Maria improbable, elle couvre tous les sons. Tout est couvert, c'est-à-dire elle chante sous une cloche pour faire expressif. Du coup, il y a ce...
C'est pas expressif, du coup.
Non, mais elle chante sous une cloche, c'est-à-dire tout est couvert, le son est couvert pendant une heure, alors qu'elle peut chanter beaucoup plus clair, Garancha. Et elle devrait savoir qu'en éclaircissant de temps en temps, ça varie beaucoup plus les climats. Donc elle nous plonge dans cette ambiance New Age, Christian avait raison. En plus, elle le veut. On nous avait distribué un dossier de presse il y a un mois, où elle expliquait qu'elle était tellement contente d'avoir eu son deuxième bébé au mois de janvier, sa deuxième petite fille, qu'elle voulait faire partager sa zénitude.
Ah, c'est ça. Sa zénitude, elle a dit.
Oui, c'était ça. Donc, moi, je veux bien, mais nous, on s'en fout, quoi.
Je propose qu'effectivement, puisqu'on est en zénitude, que son prochain concert ait lieu au Zénith et non pas au TCE, et qu'elle ait un public pour ce genre de musique. Mais
remarque, franchement, il y a peut-être, hein, franchement. Hein,
mais en Christian. Plus, autrefois, on avait des orchestres de variété qui faisaient les trésors du classique dans des arrangements. Il y avait Franck Pourcel, vous vous souvenez, Raymond Legrand. Mais moi, je préfère ça, finalement. C'était pas si mal.
Vous aimez Franck Pourcel,
vous. C'est pas si mal, le grand orchestre de Franck Pourcel.
Ah, oui.
Moi, je prends Franck Pourcel. Si vous me demandez à choisir
entièrement
entre ça et Karel Marchichon.
D'accord, vous me surprenez
de la prochaine tournée de Monsieur Rieux.
Par exemple, ça c'est encore autre chose. Autre chapitre.
Elina Garancha, Méditation, c'est chez Deutsche Grammophon. Voilà, on n'en a pas pensé vraiment du bien. Vous l'aurez compris, le disque suivant également chez Deutsche Grammophon. Et pour notre belle excentrique française, Patricia Petitbon, ce disque-là nous a été annoncé il y a pas mal de temps avec un programme assez dingue, on va dire, dedans, puisqu'il mêle plein de choses. Musique française, bien sûr, il y a du Satie, du Poulenc, du Rosenthal et même du Fauré. Et même du Ferré. Enfin, pas Léo Fauré, hein, vous l'aurez bien compris. Pierre Flinois, qu'en avez-vous pensé de ce récital de la Patricia?
On change complètement de style. Je trouve ça absolument délicieusement sympathique, très esprit français. Et par rapport, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont fait ce genre de récital, peut-être un petit peu moins varié, etc. Par rapport à une certaine époque de la mélodie française, on a changé d'époque, effectivement. Et l'ose... une espèce de familiarité, de clin d'œil, et le fait d'ajouter, bon, Léo Ferré, c'est pas ça qui en soi, on aurait pu aller jusqu'à Gainsbourg quelque part, mais c'est pas ça qui est important. C'est que simplement, dans chacune des pièces, elle est à la fois respectueuse du caractère, du style, du français véritablement, mais elle a sa propre personnalité qui s'impose avec ce petit clin d'œil gouailleur. Alors je me souviens l'époque où Régine Crespin a osé faire ce genre de mélodie en y ajoutant un petit peu du côté un peu à plume, je dirais, à boire.
C'était peut-être plus difficile pour Crespin de le faire que pour ce petit bonjour lui, non ?
Mais on avait lu à l'époque, c'est pas récent, des critiques épouvantables, disant mais une grande dame du chant ne doit pas faire ce genre de choses. Oh, Petit Bon, c'est une grande dame du chant. Petit Bon, le dernier impact que j'en ai reçu, c'est La Loulou, enregistrée à Barcelone, qui est vraiment un truc qui vous rentre dedans. Et le dernier, en vrai, c'est le Dialogue des Carmélites du mois de juin.
C'est formidable aussi.
Au TCE, encore une fois, au Théâtre des Champs-Élysées, pardon. Bon, donc, c'est une artiste qui est absolument polymorphe au niveau de ce qu'elle peut exprimer. Là, elle se fait plaisir. Je pense que ça correspond énormément à ça. Propre personnalité, et chaque petite pièce, c'est bon, ici un diamant, ici un saphir, je dirais, avec des clins d'œil extraordinaires. Évidemment, Allons-y, Chochotte est une merveille, et
avec
j'aime
Olivier,
bien parce
avec
que
Olivier Pi, d'ailleurs,
dans une interview à Classica, elle dit que en fait, elle rend hommage au fait que c'est Bacquier qui a été génial là-dedans. Dans une forme beaucoup plus classique. Ouais. Elle va, avec Olivier Py, nous faire un petit portrait d'une scène de genre absolument extraordinaire.
Mais ça, du coup, pardon, je reviens sur l'idée de la chanson. C'est important parce que ça nous dit quand même une chose, c'est que la mélodie n'est pas un monde à part et que pour tout un tas de compositeurs, et c'est pour ça que Poulenc est aussi central ici, il y a entre la mélodie, la rengaine, la chanson, des sortes de dialogues qu'il ne faut pas laisser de côté. Alors, pour illustrer tout ça, et avant d'avoir d'autres points de vue sur ce disque, Je te veux, c'est Eric Satie qui le dit, hein, c'est pas moi qui le dis à Christian.
Thank you.
Je te veux d'Éric Satie, chanté par Patricia Petitbon, avec à ses côtés sa complice Suzanne Manoff, au violoncelle le Christian Pierre Lamarca. Il a adoré tout ça, Pierre Flinois, je le comprends bien. En revanche, Christian lui faisait quelques petits bouts de mou.
Des grimaces. Ça s'est vu, mais on est à la radio, là, je vous signale. Le but de la radio, c'est précisément de ne pas voir ça. Oui, je fais quelques grimaces. Je m'en veux un peu, parce que là aussi, c'est faire des grimaces sur un, j'allais dire un produit, c'est un mot affreux pour désigner quelque chose d'artistique, mais en même temps, c'est un peu le cas, ça l'est aussi, qui est indéniablement réussi et qui a beaucoup de qualités. Mais moi, il y a aussi pas mal de choses qui m'agacent. Et c'est là que j'ai presque envie de me retirer du jeu en disant, mais je ne suis pas au plus objectif quand je parle de Patricia Petitbon, parce qu'il y a ne serait-ce que certaines techniques ou certains effets dont elle a fait une part de sa personnalité qui, personnellement, me font de mauvais frissons. C'est-à-dire, je veux dire, ça me fait mal aux dents quand elle fait comme vous l'avez entendu à la fin. Mais je me répète, je le dis à chaque émission où on parle de Patricia Petitbon. C'est son nom vibré qui sent pour moi comme un miaulement. Ça me fait du mal partout. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est surtout, je trouve ça assez exaspérant parce que moi, je le ressens comme de l'affectation. En même temps, c'est une artiste sincère et qui est vraiment, qui cherche un certain naturel, un naturel très affecté, mais ça, c'est le propre du chant lyrique. Moi, j'y vois beaucoup de maniérisme et surtout, je n'ai pas été tout à fait convaincu par la facilité du passage de la chanson à la mélodie classique où elle chante avec sa voix lyrique traditionnelle. Autant, je suis d'accord avec vous, allons-y chochotte, ça a du chien. Autant, jolie môme, je trouve ça complètement raté, la manière dont elle fait ça. Et où on sent qu'elle n'a pas du tout le naturel de cette façon de chanter, en voulant faire gouailleur, justement.
Richard, Martin.
Ah bah moi, c'est l'inverse exactement de ce que vient de dire Christian.
C'est pratique.
C'est-à-dire, sur le plan vocal, ça ne me gêne absolument pas. Ouais. Ça ne m'a jamais gêné, voilà. Ces notes non vibrées qu'elle promène un peu partout. Oui. Hein. Elle en met dans Mozart, elle en met partout. Moi, ça ne me gêne pas. Et là, je trouve que son tempérament éclate. C'est un disque où j'ai ri plusieurs fois. Vraiment, allons-y chochotte avec Olivier Py, j'étais mort de rire en écoutant
ça. C'est qui nous avait fait une répétition à France Musique lors d'une journée spéciale qui était irrésistible déjà, hein, qui a fait le tour de YouTube.
Surtout qu'en plus, c'est un spectacle, si j'ai bien compris. Patricia Petitbon fait une tournée où il joue quasiment. C'est pas vraiment un récital classique avec piano. Il y a d'autres instruments, il y a des partenaires, donc ça se conçoit comme ça aussi. J'ai ri, j'ai souri d'autres fois, j'ai été ému. J'ai été complètement envoûté. Les berceaux de forêt, Dieu sait que c'est rabâché. J'ai trouvé qu'elle faisait ça d'une manière que moi, je n'avais d'abord pas entendu jusque-là. Et ensuite, qui m'a complètement bouleversé, c'est ce qui termine le disque. Je trouve que ce disque, au climat contrasté, termine dans une atmosphère qui m'a énormément séduit. Donc j'ai écouté ça avec un immense plaisir, sans un instant d'ennui. Musicalement, c'est moins mon univers que Manfredini et Rampart, que chantait Cecilia Bartoli. Voilà.
La belle excentrique Patricia.
Je crois que je suis ronchon aujourd'hui.
Ouais, non, vous avez le droit de toute façon. C'est chez Deutsche Grammophon. Juste un mot, messieurs, quand même, avant de passer à notre série DVD. Qu'est-ce que nous disent tous ces récitals qu'on vient d'avoir là pour Cecilia Bartoli, pour Garrancha, pour Petitbon, du récital lyrique aujourd'hui, Richard Marté?
C'est pour moi, mais je crois qu'on l'avait déjà dit une fois dans cette émission, c'est le cache-misère de ce qu'on appelle la crise du disque, qui revêt beaucoup de réalités assez différentes d'ailleurs. Mais c'est le cache-misère, c'est-à-dire on fait signer un contrat à un artiste pour 5, 6, 7 disques étalés sur plusieurs années. On lui demande tous les ans, pour certains, tous les 2 ans, pour d'autres, Juan Diego Flores, il voudrait qu'il en fasse sans doute plus, mais lui il veut pas, c'est un tous les 5 ans, on lui demande de faire un récital plus ou moins conceptuel. Alors on passe par l'opérette viennoise, les chansons argentines, les airs français, les airs de Verdi, les airs de Wagner,
et
pour
Endel,
les filles, le programme
ça.
Richard Soir. N'oubliez pas...
de Noël, hein.
Les Noëls. Ah ben tiens, Pierre a raison, le mois prochain va nous arriver, on va en parler ici. Le programme Richard Strauss d'Anna Netrebko, tiens, par hasard, elle n'avait pas fait ça. Et René Fleming qui en est à rechanter des Noëls, parce qu'elle a fait 20 récitals pour des cas au moins en 20 ans. Elle a tout épuisé, elle ne sait plus quoi faire. Au lieu de continuer dans ce système de récital où les gens doivent se creuser la tête pour faire des... Qu'on fasse des intégrales, qu'on refasse des intégrales de studio, des intégrales d'opéra. Juan Diego Flores, au lieu de l'entendre dans des des chansons de son pays natal, péruvienne, moi j'ai envie de l'entendre dans une intégrale de La Gazza Ladra avec Cecilia Bartoli. Il n'y a pas d'intégrale de studio de La Gazza Ladra de Rossini.
La question.
Ou Elina Garancia, comme on se le disait au micro, dans Dalila par exemple.
Avec Jonas Kaufmann en Sanson.
On n'a pas de version moderne de Sanson et Dalila.
Depuis 15 ans, on n'en a pas eu.
On en est toujours aux versions de référence d'autrefois, alors qu'on a des chanteurs qui peuvent le faire. Autant il y a des répertoires où on dit parfois dans cette émission, tel répertoire, par exemple le Verdi puissant, on n'a pas tout à fait assez de voix spinto, admettons qu'on n'enregistre pas Othello aujourd'hui en studio, pourquoi pas. Mais ça, on peut le faire, on a les chanteurs pour le faire, c'est très rageant. Et c'est pour ça que le système finit par tourner en rond et qu'on a cette impression de répétitivité.
A-t-on le public pour acheter ces nouvelles intégrales? Parce que le vrai problème, c'est que ces galettes uniques de récital, ça se vend quand même comme des savonnettes, surtout s'il y a de la pub qui fait fonctionner la chose. Alors là, nous sommes anti-pub pour Garencha, nous sommes pub pour ce qui est des deux autres, je dirais. Et ça, on est certain que pour un investissement relativement léger, on va rentabiliser le produit. Une intégrale d'opéra, vous savez comme moi, qu'en dehors de ce qui est capté maintenant live ou en vidéo,
en DVD,
on va en parler dans un instant, et ça coûte relativement cher, et le retour sur investissement est extrêmement long, et plus personne dans les grandes majors qui dirigent le monde du disque ne veut des rentabilités à 22 ou 25 ans, et on ne signe plus des contrats à Karajan en sachant qu'il faudra 50 ans pour que telle symphonie soit rentabilisée. C'est un vrai problème économique, ça n'est plus un problème artistique, je suis entièrement d'accord.
On ferme le banc sur cette remarque de Pierre Flinois. Allez, le DVD, on a dit, pour voir quoi ? Eh bien, la Loulou du siècle, on croyait que c'était Patricia Petitbon, la Loulou du siècle, bah, okay. Elle l'est aussi, on va dire qu'elles sont deux à se battre, décidément, c'est des duels de femmes aujourd'hui. Extrait de Loulou d'Albomberg, c'était ici la voix de Barbara Hannigan qu'on entendait dans cette production du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles en 2012. Mise en scène Christophe Warlikowski, ça nous arrive aujourd'hui en DVD. Alors il n'y a pas seulement Barbara Hannigan dedans, on précisera quand même que c'était pour elle sa prise de rôle et qu'elle y était, Christian Merlin, absolument, qu'est-ce qu'on dit
Il n'y a pas de mots, oui. Sensationnelle, extraterrestre, fascinante, envoûtante. Et elle l'est aussi sur le petit écran, il faut bien le dire. J'ai un souvenir grandiose du spectacle. Le DVD a l'avantage de mettre en valeur les qualités exceptionnelles du spectacle de Varlikovski, qui était d'une poésie incroyable autour du thème de la danse. Il faisait de Loulou une ballerine, et de fait, on a une Loulou sur les pointes, car oui. Barbara Hannigan a réellement des chaussons.
A une carrière de danseuse.
Exactement, elle a revêtu les chaussons et elle est sur les pointes. Oui. Elle en crée un personnage absolument mystérieux, envoûtant, très désincarné, mais moi personnellement, c'est comme ça que j'aime Loulou. On ne doit pas savoir qui est Loulou, ce qu'elle ressent, si même à supposer qu'elle ressente quelque chose. Mmh. Et Varlikovski a cet art plastique, déjà, de créer un univers poétique. Mmh. En revanche, ça n'est pas forcément quelqu'un qui raconte une histoire, qui la raconte de manière linéaire. Ça n'est pas la Loulou la plus lisible qu'on ait. C'est même un problème, parce que quand je vous disais que ça rehausse les qualités du spectacle, ça met aussi en évidence les défauts. Et il y avait des défauts évidents de lisibilité, notamment dans le troisième acte où Varlikovski n'a pas tout à fait su comment faire avec toutes ces actions parallèles, cette oui. multiplicité de personnages, déjà au deuxième, tous ces rôles secondaires. Il ne s'y est pas vraiment intéressé, je crois. On est tellement focalisé sur Loulou, ça manque un peu au DVD comme ça manquait au spectacle.
Attends, il a une telle chanteuse, enfin artiste pour faire ça, qu'on comprend qu'il ait construit lui aussi le spectacle.
Exactement,
autour d'elle,
c'est
hein.
évident.
Pierre Flinois.
Oui, c'est un spectacle qui ne tient que par elle et autour d'elle, bien évidemment. Et la fascination que cette interprète peut avoir à l'écran et à l'audition et en scène, c'était la même chose. Moi, j'étais resté tétanisé par cette présence-absence, en plus, parce qu'il y a une indifférence dans cette Loulou qui est absolument extraordinaire, mais qui la rend encore plus captivante, encore plus happante, je dirais. Et elle domine absolument, totalement, le reste de la distribution, qui n'est pas sans faiblesse, mais je dois dire que, je ne sais pas quel jour, par rapport au spectacle, le jour où je l'avais vu, où vraiment certains étaient encore plus fatigués que ça, ça n'est pas la première distribution qu'on pourrait imaginer pour Loulou. Et franchement, je ne trouve pas ça gênant. Mmh. Après, en DVD, si vous voulez voir la Loulou de Berg telle qu'elle a été pensée, même au niveau de l'époque, vous avez le DVD d'archives de Vienne, de la création viennoise, dirigé par Carl Böhm, oui. qui vous montre une Loulou qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Mmh. Bien, petite bourgeoise bien sage quelque part, mais qui malheureusement a des fesses, je dirais, qui font que tous les hommes la regardent avec un appétit. Là, on n'est plus du tout dans ça. On voit très bien que 60 ans se sont vraiment écoulés et qu'on approche du centenaire de l'œuvre bientôt. Mais franchement, cette Loulou-là, c'est une bombe. Et on avait eu en vidéo une autre bombe de Barcelone avec Patricia Petit, que j'évoquais tout à l'heure.
Mise en scène par Olivier Pie.
Avec un côté expressionniste absolument ébouriffant de couleurs, de chaleurs. Et un personnage avec un petit peu d'indifférence, mais quand même un cœur.
Ouais.
Notre Barbara Hannigan.
Elle n'a pas de cœur.
Elle a mangé un cœur dans un autre spectacle qu'on a vu à
Aix-en-Provence. Juste un tout petit mot. Il y a un prologue parlé, comme Varlikovski aime souvent bien faire, qui évoque la figure biblique de Lilith, qui était de fait la première femme d'Adam et qui est une sorte d'incarnation du démon. Et ce démon primitif, c'est ce qu'elle est là-dedans,
tout
hein, Barbara Hannigan.
Qu'est-ce qu'on doit choisir d'ailleurs, messieurs, la version Petit Bon Pis?
Pourquoi les deux choisir
les deux. Ah pardon,
il faut les deux. Très belle direction de Paul Daniel,
soit
direction
passant,
d'orchestre.
Magnifique.
Ah oui,
qui dirigeait la Monnaie, mais qu'on a à Bordeaux. Hein,
exact, c'est une chance. C'est
donc qui était arrivé pendant les répétitions, parce que je ne sais plus qui devait diriger, et avait renoncé pour je ne sais plus quelle raison. Il a sauvé le spectacle, et vraiment, c'est magnifique.
C'est donc Loulou d'Alban de Berg, mise en scène par Christophe Varlikovski, dirigé par Paul Daniel, avec la Barbara Hannigan, chez Bel Air Classique.
France Musique.
Et décidément, Bruxelles fait du bon et du DVD. Voici un trouvert, Il Trovatore. Cette fois-ci mise en scène par un autre grand de la mise en scène d'aujourd'hui, Dmitri Tcherniakov, dirigé par Marc Minkowski, qui nous en parlait d'ailleurs de ce DVD lundi dans l'émission. Qui l'a vu, ce trouvert Richard, non ?
Non,
non,
je ne l'ai pas vu.
Pierre.
Moi, j'ai vu le spectacle, j'ai vu le DVD. Alors, je voudrais d'abord dire une chose, c'est saluer la politique de vidéo de Bruxelles, qui met maintenant à peu près toutes les nouvelles productions en streaming et qui finit par les publier, puisque le temps qu'on décide de ce programme, il est arrivé sur mon bureau, La Roussalka de Bruxelles, de Stefan Erheim, qui va être encore un sujet intéressant de discussion. Bruxelles est effectivement une des scènes les plus avancées dans un théâtre un petit peu de type régie théâtre. Et donc, le trouvert qu'on nous propose là, qui est donc une captation essentiellement faite pour le streaming, mais qui ne veut pas dire qu'on aura un DVD de référence. Mais c'est mieux capté, à mon avis, de toute façon, que le Loulou, qui était beaucoup plus difficile à capter aussi, par l'immensité de tout ce qui se passait partout. Là, le propos du trouvert en question, ça n'est pas du tout le trouvert de Verdi, c'est après... mais je ne sais pas très bien quand ça s'est arrêté, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont morts à la fin du Trouvère de Verdi. Tout le monde se retrouve pour refaire le point, expliquer pourquoi on est arrivé là, et finalement ça tourne vraiment mal, et on se tue tous. Donc c'est la vengeance d'Azucena, ça c'est une évidence claire. Elle n'a pas digéré ce qui est arrivé à sa mère, à son propre enfant, etc. Et elle se débrouille pour faire revenir tout le monde dans un huis clos absolument brechtien, enfin tout ce que vous voulez.
À la Festen, un peu, un règlement de courte.
Tout à fait. Voilà. C'est exactement ce qu'on peut dire. Et qui fait qu'il y a une densité, il y a une présence. Ça n'a rien à voir avec... On revit à la fois les scènes, mais on les voit autrement. Tout le monde est là pour intervenir, taper. C'est autre chose. C'est assez formidable.
Christian.
Ah oui, je suis entièrement d'accord. C'est un spectacle captivant qui m'avait captivé sur place à l'époque, mais qui va, je crois, pratiquement au plus loin que l'on puisse aller dans la réécriture. Mmh. Et ça pose vraiment la question du statut et du rôle du metteur en scène. Est-il simplement un serviteur, un interprète, un créateur ou un recréateur? Tcherniakov, d'une certaine manière, va presque plus loin que Varlikovski, parce que Varlikovski crée un univers poétique autour de l'œuvre, mais néanmoins garde la trame. Mmh. Tcherniakov a souvent besoin de réécrire la trame, même si c'est pour en saisir la substance, hein, évidemment. Et il a besoin du huis clos. Tcherniakov, il a trouvé depuis quelques années maintenant, est-ce un système, est-ce un mode de pensée, je ne sais pas, c'est surtout une méthode de travail. Et on peut bien sûr dire, oui, mais ça n'est pas le Trouvère qu'on voit, d'autant qu'attention, il va loin, il y a des procédés de réécriture font que, par exemple,
c'est des personnages
rôles,
qui disparaissent. Hein.
Voilà, le personnage d'Inès, la suivante de Leonora, est chanté par Azucena. Ses répliques sont là, mais c'est Azucena qui les chante. Mmh. Au début, on n'a pas le chœur.
Bah, parce qu'on rappelle en fait les événements qui sont passés dans l'opéra de Verdi.
Exactement. On n'a pas le chœur.
Remarquez, c'est intéressant parce que la mise en scène est une interprétation, c'est une sorte de mise en abîme.
Moi, je suis d'accord avec ça. En même temps, je suis prêt à recevoir les arguments et les réflexions de ceux qui disent ça va trop loin. Mmh. Je ne vais pas plus loin. Mmh. J'ai accepté de suivre, moi, Tcherniakov là où il nous mène parce qu'il est fascinant comme metteur en scène. Et le travail d'acteur est absolument renversant. Mmh. Et donc, ces personnages-là, moi, j'ai l'impression de voir finalement les personnages du Trouvère avec toute leur personnalité, leur force émotionnelle. Mais il va très loin, je suis d'accord.
Richard, un mot là-dessus quand même.
Ce qui me gêne toujours un peu, alors, je n'ai pas vu le spectacle ni à la scène, je voulais y aller puis je n'avais pas pu, ni le DVD. Mais ce qui me gêne toujours un peu, c'est est-ce que c'est clairement dit que ce qu'on voit et entend, c'est pas le Trouvère, mais le Trouvère réécrit par Dmitri Tcherniakov. Mmh. Quelqu'un qui va dans un magasin, ce qui reste, et qui s'achète un DVD du Trouvère et qui s'achète ça, manifestement, d'après ce que vous dites tous les deux, il ne voit pas et n'entend pas le Trouvère.
Ah, il l'entend quand même.
Il entend autre chose.
L'essentiel de la musique est là, quoi.
Mais comment peut-on aller acheter un Trouvère sans avoir écouté l'émission, voyons.
Donc, déjà. Moi, ça me gêne toujours un peu, et quelqu'un qui n'a jamais vu le Trouvère et qui voit ça, je suis toujours perplexe. Il faudrait, en fait, au lieu de faire un débat avec des gens comme nous qui avons l'habitude, moi, j'ai envie de le regarder, ce DVD, et quand j'en aurai le temps, je le regarderai, ça, c'est certain. Mais je me mets toujours à la place de quelqu'un qui, soit n'a pas l'argent pour s'acheter deux ou trois DVD du Trouvère, soit qui n'a jamais vu le Trouvère et qui se retrouve avec ça. Je suis très, très sceptique.
On va écouter, si vous voulez, pour se rendre compte musicalement aussi, ce que ça donne. Un duo entre Sylvie Brunet et Micha Didi. Zucchina de Sylvie Brunet, auquel Manrico, alias Micha Didic, donnait la réplique dans ce trouvert de Giuseppe Verdi de La Monnaie de Bruxelles 2012. On n'a même pas parlé, alors non seulement de Sylvie Brunet, elle est sublime. Hein,
oh là là, renversante. Magnifique. Hein. Renversante.
Et Martin Kowski à la baguette. Donc
très belle direction. Autant la distribution est inégale, à part Sylvie Brunet qui est la plus grande, mais très belle direction de Marc Minkowski, à la fois théâtrale, mais maîtrisée, de bon goût, du rythme.
Et puis rentrant parfaitement dans ce qu'a proposé Dmitri Tcherniakov en plus. Hein,
Pierre tout à fait. Elle est la meneuse de jeu.
Et c'est ça, c'est formidable.
Et le support orchestral convient parfaitement. Et ça, c'est formidable.
Le Trouvert de Verdi, depuis Bruxelles, et La Monnaie, c'est donc là encore chez Bel Air Classique. Cette émission a été préparée par Raphaël Dor, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Jean-Paul Lafavergès et Thibaut Gouffier. Merci à mes invités du jour, Richard Marté, Pierre Flinois, Christian Merlin, d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve lundi, ce ne sera pas casque, ce sera évidemment magazine. Mon invité, je ne sais plus quel sera mon invité, mais vous le saurez lundi. Donc, excusez-nous bien, Jean-Marc Lizada, ça y est, me l'a soufflé dans le casque.